Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel et à Bamako, 22h à Port-Gentil, au Gabon, et à Vitry, en banlieue parisienne. Et le journal est présenté par Alban Le Prince, à qui un jour je demanderai ses goûts musicaux pour leur diffuser quelques titres dans Couleur Tropicale.
Oh, je suis très variée, Toche. Hein.
ça va aussi, ça marche également.
Bonsoir Claudie, bonsoir à tous. À la une ce soir, ça y est, le Hamas et Israël sont tombés d'accord. Une trêve doit débuter dimanche dans la bande de Gaza, dit le Qatar. Les précisions dans un instant du correspondant de RFI à Jérusalem. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche au menu des discussions aujourd'hui entre Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Donald Tusk, le premier ministre polonais. Réunion alors que la Pologne vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne. Au sommet, également les complotistes qui s'en donnent à cœur joie. Une semaine après le début des incendies qui ont fait 25 morts à Los Angeles, la désinformation pullule aux États-Unis. Et puis ce chiffre, 1 million, c'est le nombre de déplacés en Haïti, 3 fois plus qu'il y a un an dans le pays ravagé par la violence des gangs. 15 mois après le début de la guerre, scène de liesse dans la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens expriment leur joie ce soir depuis l'annonce d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas. Il prévoit la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Accord qui entrera en vigueur dimanche, confirmé par le Qatar, le Hamas et l'État hébreu qui affirment que des questions restent à régler. Les précisions à Jérusalem de Sami Bourkhalifa.
Explosion de joie dans les rues de Gaza, des célébrations spontanées dans un territoire coupé du monde, plongé dans le noir, sans électricité et sans eau. La fin d'un cauchemar qui a duré 467 jours, durant lesquels plus de 46 000 Palestiniens ont perdu la vie. 2 millions de déplacés, soit presque la totalité de la population de l'enclave. La bande de Gaza, anéantie par des dizaines de milliers de tonnes d'explosifs largués par l'aviation israélienne. Côté israélien, cet accord ne fait pas l'unanimité. L'extrême droite le rejette en bloc et dénonce une capitulation. Pour les familles d'otages, c'est encore l'inquiétude qui prime, car à l'heure actuelle, l'accord n'est connu que dans ses grandes lignes. Il s'ouvre sur une période d'arrêt des combats de 42 jours, une première étape durant laquelle 33 otages israéliens seront progressivement libérés. Il reste pourtant une centaine de captifs israéliens à Gaza. On ignore combien sont encore vivants, et les noms des 33 premiers libérables ne sont toujours pas connus. 251 Israéliens avaient été enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque meurtrière du Hamas, qui a également coûté la vie à 1200 personnes en Israël ce jour-là. Sami Bourkhalifa, Jérusalem. RFI.
L'armée israélienne qui poursuit ses frappes en Syrie, notamment 3 personnes sont mortes aujourd'hui, dont un civil dans une localité de Gadir al-Boustan près du Golan occupé. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est la première frappe visant des forces de sécurité des nouvelles autorités. Le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne annonce quant à lui la mort de 5 personnes à Jénine en Cisjordanie occupée. Notez aussi que les médias d'État égyptiens annoncent ce soir que des négociations sont en cours pour rouvrir le passage frontalier de Rafah entre l'Égypte et Gaza, fermé depuis le mois de mai. Objectif, permettre de faire entrer de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Les conflits mondiaux, principale préoccupation des patrons, alors que la Russie a lancé aujourd'hui une nouvelle attaque massive contre le réseau énergétique ukrainien, près de 120 missiles et drones. Au même moment, Volodymyr Zelensky était en Pologne, qui vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne. Son premier ministre a d'ailleurs assuré qu'il contribuerait à accélérer l'adhésion de Kiev à l'Union européenne. Au menu des discussions aussi, le retour lundi de Donald Trump à la Maison Blanche, le premier ministre polonais Donald Tusk.
Nous avons tous les atouts en main pour que l'Amérique recommence à considérer l'Europe comme un partenaire de coalition et un partenaire souhaitable et non comme un fardeau. Plus personne ne réglera nos problèmes de sécurité à notre place. Sur ce point, nous devons tous être d'accord avec le président Trump. Je suis convaincu que si tous les pays européens commencent à prendre au sérieux leurs engagements envers l'OTAN, les États-Unis seront satisfaits de continuer à travailler avec nous, car nous sommes un partenaire très sérieux. C'est ce qui ressort des nombreuses conversations que j'ai eues avec le président Trump il y a plusieurs années.
Donald Tusk, pour qui la Russie a planifié des actes de terreur dans les transports aériens à travers le monde. Il accuse aussi Moscou d'organiser des sabotages et des détournements d'avions en Pologne et au-delà. Plus d'une semaine après le début des incendies qui ravagent Los Angeles, les prévisionnistes alertent. Le vent va encore se renforcer avec des rafales jusqu'à 110 km/h qui devraient compliquer le travail des pompiers. Le bilan, lui, s'est encore alourdi. 25 morts, 88 000 déplacés et ces feux pourraient devenir les plus coûteux jamais enregistré, entre 250 et 275 milliards de dollars de dégâts. Une enquête a également été ouverte hier au niveau fédéral, mais les complotistes, comme à leur habitude, n'attendent pas d'obtenir davantage d'informations. Christophe Paget.
Il y a trois jours, la star de cinéma Mel Gibson, dont la maison a brûlé, sous-entendait sur Fox News que le gouvernement de Californie était peut-être impliqué dans ces feux, avec pour objectif de remplacer les demeures des millionnaires par des habitations pouvant accueillir davantage de familles. Donald Trump avait lui-même, peu après le début des incendies, accusé le gouverneur démocrate Gavin Newsom d'être à l'origine, avec sa politique de protection de l'environnement, des problèmes d'approvisionnement en eau rencontrés par les pompiers. De son côté, Elon Musk, dans un post aujourd'hui effacé, a repris à son compte la théorie du conspirationniste Alex Jones, affirmant que Joe Biden avait volontairement bloqué les plans de lutte contre les incendies, des feux propagés à dessein dans le cadre d'un complot mondialiste visant à mener une guerre économique. La maire démocrate de Los Angeles et la chef LGBTQ+ des pompiers sont elles aussi la cible de toutes sortes de mensonges. Et les conspirationnistes ont même réussi à rattacher les feux au traditionnel complot mêlant stars, politique et pédophilie, affirmant que les incendies avaient pour objectif de faire disparaître des preuves visant des personnalités pouvant être impliquées dans une vaste enquête pour trafic sexuel dans laquelle le rappeur P. Diddy doit être jugé au printemps.
Christophe Paget. En Haïti, ravagé par la violence des gangs, plus d'un million de personnes sont aujourd'hui déplacées à l'intérieur du pays. C'est trois fois plus qu'il y a un an. La faute à une augmentation de l'insécurité à Port-au-Prince, du nombre d'attaques. Grégoire Gutstein, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Haïti.
Ils partent des quartiers qui sont un petit peu en périphérie de la capitale. Soit ils essayent de se recentrer dans les zones sécurisées de la capitale, une zone qui est maintenant assez restreinte. Je crois qu'il n'y a plus que 15% de la capitale qui est considérée comme zone sécurisée. Et puis, il y en a d'autres qui partent en province, notamment dans le sud et un petit peu vers le nord. Mais le nord est de plus en plus sujet aux attaques des gangs parce que les gangs se sont déplacés un petit peu vers les provinces du nord. La majorité des personnes qui partent en province sont dans des familles d'accueil. Soit des familles que ces personnes connaissent ou des familles qui, par solidarité, les accueillent et qui partagent donc leur maison.
Et ces familles sont déjà dans des situations difficiles.
Surtout que la situation de crise dure depuis 2 ans et plus. Donc les familles qui accueillent sont aussi en difficulté. Donc c'est pas seulement les personnes déplacées internes qui ont besoin d'assistance, mais c'est aussi celles qui les accueillent. Donc quand on parle de 1 million de personnes qui ont été déplacées à cause des violences, il faut aussi rajouter les communautés d'accueil qui ont aussi besoin d'assistance.
Grégoire Gutstein, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Haïti. Ni la France ni l'Algérie n'ont intérêt à ce que s'installe une tension durable entre elles. La déclaration aujourd'hui de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, interrogé à l'Assemblée, a réaffirmé qu'il était prêt à se rendre à Alger alors que le torchon brûle depuis l'été dernier et l'annonce du soutien de Paris au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, mais aussi après l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Le groupe pétrolier norvégien Equinor est-il réellement le champion européen de la capture de carbone comme il le dit? Non, si l'on en croit une enquête du collectif de Smog, car l'entreprise affirme stocker 1 million de tonnes de CO2 chaque année. En réalité, ce serait 10 fois moins, Simon Rosé.
Sleipner est un champ gazier offshore, une plateforme en mer du Nord opérée par Equinor, un projet phare pour le géant norvégien des hydrocarbures, le premier de grande ampleur au monde à être équipé d'un système de stockage et captage de carbone. Les rejets de CO2 de l'exploitation sont attrapés et enfouis avant de rejoindre l'atmosphère. L'émission d'1 million de tonnes par an ont ainsi été évitées selon Equinor, mais voilà, en réalité, il faut diviser par 10 pour obtenir le véritable chiffre, conclusion d'une enquête du collectif d'investigation des Smog. Conclusion à laquelle s'est rangé Equinor, qui plaide une erreur d'actualisation de son site internet pour expliquer ses affirmations trompeuses. Une affaire qui fait mauvais genre pour les promoteurs de la technologie de captage et stockage de CO2, malgré le fort soutien que lui accordent les géants du secteur des hydrocarbures. On les comprend, pourquoi s'embêter à réduire les émissions de dioxyde de carbone s'il suffit de le capter et de le séquestrer? Mais voilà, et l'affaire Equinor en témoigne, l'efficacité de cette technique est loin d'être avérée. Le secteur ne ménage pourtant pas ses efforts. Environ 500 de ses lobbyistes étaient accrédités lors de la dernière COP29 sur le climat il y a 2 mois en Azerbaïdjan.
Simon Rosé, il est 21h10 en temps universel. Tout de suite, c'est Radio Foot International sur RFI.